grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse en direct ou en podcast. Comment réussir son changement de vie? C'est notre thème ce matin. Qu'il s'agisse de reconversion professionnelle ou de formation, nous vous délivrons quelques pistes pour ne pas vous planter. Vous faites peut-être partie de ces 7 Français sur 10 qui aimeraient changer de vie. Mais comment expliquer ce désir de tout recommencer, cette idée que la vie est ailleurs? Pourquoi par exemple autant de cols blancs se reconvertissent en boulanger ou en ébéniste? Comment éviter les mauvais pas, les choix hasardeux? Comment faire pour que son rêve de changement ne se transforme pas en cauchemar réveillé? Quels sont les grands principes à respecter avant de se lancer? Avec nous ce matin, Philippe Gabillier, professeur en psychologie, qui vient de publier « L'art de changer de vie en 5 leçons » et Lomig Guillot, rédacteur en chef du hors-série « Changer de vie » du magazine Management. Et vous, racontez-nous votre changement de vie, réussi ou raté, au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Bientôt une nouvelle vie en juin. Hein,
absolument.
Ah, la retraite. Hein. Quel est le menu de vos choses vues vers 11h35?
Eh bien, on parlera de poésie, de fuite et de quête.
A tout à l'heure. Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Chef du service actualité à Femmes Actuelles. En fin d'émission, il sera question de congé paternité. Ce congé paternité qui peut changer la vie des hommes.
Et oui, en voilà du changement. S'investir davantage dans leur rôle de père. Nombre d'hommes veulent en faire plus et réclament un congé paternité plus long et même obligatoire.
A tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour à nos invités. Bonjour Philippe Gabillier.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie à l'ESCP Europe à Paris. Et vous venez donc de publier L'art de changer de vie en 5 leçons aux éditions Saint-Simon. Vous débutez votre ouvrage avec une citation de Charles Bukowski. Je le cite, à mon avis, c'est ça qui déglingue les gens, ne pas changer de vie assez souvent. Vous pensez la même chose?
Oui, je pense qu'il y a, pour certains, ça peut être effectivement le cas, si ce n'est que derrière le mot « changer de vie », il y a beaucoup de réalités vécues différentes. Enfin, ça va de celui qui change de vie parce qu'il est forcé, parce que un problème de santé, un problème de couple, un problème de travail l'a forcé, l'a balancé dans une autre vie. Et puis c'est celui ou celle qui un jour a décidé que voilà, il était temps d'aller peut-être explorer autre chose. Mais on est dans un monde aujourd'hui où le champ des possibles est tellement énorme, croit-on, qu'on se dit ça serait peut-être dommage de laisser passer le coche. C'est pas d'ailleurs rater sa vie qui pose problème, je pense, pour beaucoup de gens aujourd'hui. C'est cette idée qu'on peut discuter d'ailleurs qui serait passer à côté. Passer à côté de ce pourquoi j'étais vraiment fait, si tant est qu'il y ait quelque chose pour quoi on soit vraiment fait.
Petit point sémantique, il est impossible de changer de vie car on n'en a qu'une. En revanche, il est possible de changer quelque chose dans sa vie.
Voilà. Et alors, on peut effectivement changer quelque chose dans sa vie, on peut changer un lieu, on peut changer une relation, on peut même vivre soi-même un changement dans son corps ou dans son esprit, la conversion par exemple religieuse, on peut changer quelque chose. Et ce changement va parfois se faire domino, effet domino, et aboutir à une reconfiguration globale de la vie, ce qui fait que 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, la personne aura le sentiment, à tort ou à raison, qu'elle vit une autre vie que celle qu'elle vivait il y a 2 ans, 3 ans.
Il y a également une pression sociétale du changement obligatoire. Certains appellent ça le bougisme, avec cette injonction, être flexible, mobile, capable de se remettre en question tout le temps. Nos sociétés valorisent le changement de vie.
Oui, de toute façon, elles valorisent le changement de vie. Ça, c'est un effet collatéral à l'injonction au bonheur. C'est-à-dire, voilà, il faut tout faire pour essayer d'être heureux. Et donc, certains se disent, si je suis malheureux là où je suis, ça veut bien dire que si je changeais quelque chose, souvent à l'extérieur de moi-même, peut-être que ça changerait quelque chose. Et on oublie d'ailleurs que c'est peut-être à l'intérieur que les choses se font. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, il y a une injonction à ça. Il faut bouger. Quand on dit, vous devez être flexible, vous devez être mobile, c'est vrai dans le monde du travail. Il y a des univers quand même dans lesquels le bougisme n'est pas légitime. Hein. On peut pas changer de conjoint tous les 4 matins. On peut pas non plus changer aussi d'engagement. Un engagement engagement, pardon, un engagement sociétal fort, si on se met à changer d'opinion politique tous les quatre matins, bon, on peut pas non plus tout changer. Mais il y a cette idée selon laquelle on vit dans un monde aujourd'hui qui nous permet de nous reconfigurer, de nous réinventer. Je crois que c'était Pascal Bruckner qui une fois avait dit, mais la réincarnation, bien sûr, ça existe. La réincarnation, c'est maintenant. Vous avez la possibilité aujourd'hui de vous réincarner, de vous réinventer dans d'autres rôles sociaux. Ça ne veut pas dire que votre environnement va être d'accord pour vous laisser faire.
Mais le changement de vie est-il toujours souhaitable ?
Ah, il peut y avoir des changements de vie pour des mauvaises raisons.
Lesquelles, par exemple ?
La raison fondamentale, c'est je pense que en changeant ma relation à quelqu'un d'autre, ou en changeant d'autre, ou en changeant de lieu, je vais changer mon logiciel, c'est-à-dire mon incapacité pour certains à décider, pour d'autres mon manque de générosité. Croire que en changeant à l'extérieur, ça a obligatoirement changé à l'intérieur, c'est malheureusement, c'est parfois plutôt le contraire. Moi, je crois beaucoup plus à l'idée que la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Hein.
Lomic Guillot, vous publiez un hors-série de management, hein, très pratique, consacré au changement de vie. Ça vous étonne que près de 7 Français sur 10 souhaitent changer de vie, si l'on en croit un sondage d'OpinionWay pour ING Direct, publié en 2015. Alors c'est une envie écrasante chez les femmes, chez les 18-24 ans et chez les 35-49 ans.
C'est ça qui est étonnant en fait, c'est ce rajeunissement en fait de cette envie de changer de vie. On disait qu'avant on avait en gros une envie de changement tous les 10 ans et que ça se concentrait beaucoup autour de la quarantaine, énormément les hommes en plus. Et on voit qu'aujourd'hui c'est des gens de plus en plus jeunes qui ont envie de changer de vie, qui ont cette envie en tout cas de faire autre chose de leur vie. Donc non, ça ne m'étonne pas, ça me rassure quant aux ventes possibles du numéro. Et plus sérieusement, je pense
quel
que ça
cynisme.
Ça répond surtout à ce qu'on ressent généralement aujourd'hui dans l'univers du travail, qui est une quête de sens des gens qui pensent à tort ou à raison, on peut en discuter, mais qu'en prenant eux-mêmes leur destin professionnel et leur vie professionnelle en main, ils vont pouvoir faire quelque chose qui leur apporte plus de satisfaction.
Repartir de zéro, c'est le rêve de plus en plus de Français, et c'est bien plus qu'un effet de mode. Hein. Ça ne concerne pas que les cadres en mal de sens.
Oui, alors repartir de zéro, il faut faire attention, parce qu'il y a un côté un peu ardoise magique. On peut penser que changer de vie, ça veut dire effacer tout ce qu'il y a eu avant, et effectivement, repartir de zéro, or, on repart jamais totalement de zéro. On repart avec son propre bagage, on peut repartir dans un nouveau métier, découvrir un nouvel univers professionnel, mais on ne repart pas de zéro. Et c'est vrai que vous demandiez tout à l'heure quels étaient les risques à changer de vie. C'est vrai que imaginer qu'on va laisser tous ces problèmes derrière soi, c'est un des principaux écueils dans la réussite d'un changement de vie. Mais au-delà de ça, c'est vrai que sans repartir de zéro, on a envie de repartir, de pivoter légèrement. Je dis dans l'édito qu'on dit souvent quand on parle de changer de vie, que c'est faire sa révolution. Or, pour revenir à de la sémantique dont vous parliez, faire sa révolution, c'est faire un tour complet, donc revenir au point de départ. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir sur son axe, sur soi, ses priorités, ce qu'on est, comment on peut pivoter pour peut-être trouver une meilleure direction que celle qu'on avait prise jusqu'alors.
Philippe Gabillier, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, complètement. Le fait que parfois, le changement va être une toute petite chose. Je prends l'exemple, moi, quand on était à l'école, on m'a pardonné que les parallèles, je dirais, ça, dans l'infini, ça se rejoint jamais. Mais si les deux parallèles en apparence, il y a un petit changement imperceptible à un moment donné, une façon, un nouveau rituel, une façon différente de se traiter soi-même, voire de parler à autrui. Si ça se trouve, ce toute petite chose qu'on ne voit pas aujourd'hui, on le verra peut-être même pas dans 10 jours, dans 3 mois, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça donnera une vie différente parce qu'un jour, on aura fait ce choix de la petite inflexion magique.
Changer de vie, c'est synonyme de quoi au fond ? C'est l'idée de retrouver sa liberté ?
En tout cas, dans les études qui ont été faites, la thématique de la liberté, elle est très très présente, sachant que là où on se rend compte de la puissance du thème de la liberté, c'est lorsqu'on demande aux gens, mais alors qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher ? Et en fait, les empêchements manquent parfois de romanesque. Hein. Les empêchements, c'est toujours plus ou moins toujours les mêmes. La pression familiale, les contraintes matérielles, et dans l'étude OpinionWay que vous citiez, je crois arriver en 5e position, mais plutôt bien placé quand même, le doute sur le fait de savoir si mon banquier va me suivre. Donc vous voyez, on n'est quand même pas pas dans l'aventure quand même. Hein. Voilà.
Bonjour Jean-Benoît.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission, vous êtes oliveron au Beau-de-Provence. C'est quoi un oliveron ? C'est l'équivalent de vigneron, mais pour les olives, c'est ça ?
Absolument. C'est quelqu'un qui fait à la fois pousser des oliviers et qui fait son huile.
Alors, c'était quoi votre vie d'avant? Vous étiez ingénieur, c'est ça?
Oui, moi, je suis ingénieur de formation et je suis parti jeune ingénieur aux États-Unis pour développer une machine que j'avais du mal à développer en France.
Mmh. Alors, vous avez changé de vie et ce changement de vie a été salvateur pour vous?
Tout à fait. En fait, je crois que on a des ambitions quand on est très jeune et entre autres de participer à des évolutions technologiques, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai eu la chance d'avoir. Ces évolutions, elles ont un prix, on a un prix à payer, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de développer, on est en haut du monde, on est sur la voie rapide, on est voilà. Et puis à un moment donné, on se dit bon, on n'est pas tout seul, on a toujours peur de se faire doubler, on a toujours peur de pas être à la hauteur, tout va très très vite. En plus aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux, emails, etc., on est dans l'instantané, dans la rapidité, dans le stress total. Et on finit au burn-out. Et l'aspiration à changer de vie, c'est peut-être aussi une réparation de ce burn-out.
Et est-ce que vous avez longuement mûri ce projet de devenir oliveron? Ça a pris combien de temps, le passage de cette vie d'ingénieur à cette vie d'oliveron au bout de Provence?
Bon, en fait, je crois qu'il y a une grosse part de changement de vie, c'est des projets. C'est des projets qu'on peut maîtriser. Ma compagne et moi-même, ma femme, on avait toujours décidé qu'un jour, on se replierait sur les oliviers. C'est un projet qui était qui était au fourneau et qu'on a sorti quand vraiment la pression s'est fait sentir, qu'on a pu changer de vie. Hein. Il y a aussi des opportunités, l'âge des enfants, il y a beaucoup de paramètres. Et on a réussi à pouvoir sortir ce projet au bon moment.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui ont des velléités de changement de vie mais qui n'osent pas?
Il faut changer de vie pour les bonnes raisons. Il faut avoir vraiment ce besoin très fort, il faut avoir mûri. Et puis après, il faut vivre des passions. C'est-à-dire qu'un changement de vie est aussi le moyen de penser à soi. Et de vivre ses passions.
Philippe Gabillier, on ne change pas de vie sur un coup de tête, hein, c'est le fruit d'une longue maturation.
Pour certaines personnes, oui. Pour certaines personnes, oui, mais je prends souvent l'exemple des romanciers. On se rend compte, moi j'en ai beaucoup interrogé, et certains romanciers vous disent « moi je commence pas un bouquin tant que j'ai pas fait le plan ». Même si je dois changer en cours de route, mais il faut que j'ai un plan. D'autres, au contraire, vous diront « non, je démarre, j'ai une phrase, deux phrases, trois phrases, je n'ai pas la moindre idée de ce que racontera mon histoire dans les semaines qui viennent ». Je pense qu'au niveau du changement de vie, on retrouve ça. On retrouve ça d'ailleurs même sur des philosophes. Vous avez d'un côté un Sartre ou un Michel Foucault aurait été dans cette logique-là « je bâtis mon œuvre de vie ». Et vous allez avoir un Merleau-Ponty ou un Deleuze qui diront « non, soyons plutôt à l'écoute de ce qui est en train de changer dans ma vie ». Et vous avez d'ailleurs deux écoles, l'école quasiment du saut dans le vide et dans l'inconnu, et puis l'école des plus asiatiques, des transformations silencieuses. C'est-à-dire, je vais me mettre dans une posture où ce qui pourrait m'aider à changer autour de moi, je vais pour une fois dans ma vie me mettre à cette écoute de ce qui change autour de moi.
Lomi Guillot sur le témoignage de Jean-Benoît.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Il disait qu'il était dans l'instantané, la technologie, qu'il avait envie de revenir à quelque chose de plus proche de la nature, un rythme différent. C'est vrai que c'est une grande tendance finalement de vouloir revenir notamment au métier manuel ou de l'artisanat, de vouloir s'ancrer dans du concret, revenir à des professions de tradition. Donc en ça, il rejoint quand même une tendance assez profonde. Et sur les motivations du changement, c'est vrai que ce qui important, peut-être plus que le plan ou la route qu'on va prendre, c'est de connaître les raisons qui font qu'on a envie de changer.
On va y revenir dans quelques instants. Merci beaucoup Jean-Benoît d'être intervenu ce matin. N'hésitez pas à partager votre expérience de changement de vie, réussi ou raté, au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan, Théo Denmat et Manon Rax m'ont aidé à préparer cette émission et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
Je lui salais.
veux du soleil par Au Petit Bonheur.
Call me Washington. 4-0-0-0. Call me back. 5.
Grand bien vous fasse.
Ici Bob Sinclair. J'écoute. Yes. No. Ok.
Sur France Inter.
10h23, comment réussir son changement de vie? C'est notre thème ce matin avec le professeur en psychologie Philippe Gabillier qui publie L'art de changer de vie en 5 leçons et avec Lomique Guillot, rédacteur en chef du hors-série Changer de vie du magazine Management.
Pour vous, changer de vie, ça serait quoi?
Marin au long cours. Et je voyagerai sur les 6 mers du globe, bien sûr.
J'arrêterai de travailler et je monterai à une école de théâtre pour enfants. Voilà.
Pourquoi vous le faites pas?
Parce qu'il n'y a pas les moyens.
Vous n'êtes pas le courage, tout simplement. Le courage de changer de vie, laisser la famille, les enfants.
J'y pense souvent, j'espère pouvoir le faire dans pas trop longtemps, on va dire.
Vous parlez de Thierry pour toute la vie?
Bah demain avec vous, quand vous voulez.
Un extrait du JT de France 2 en 2014. Philippe Gabillier, il y a une question fondamentale à se poser quand on souhaite changer de vie. C'est la question du pourquoi. Comprendre ce qui nous pousse à vouloir changer de vie.
Oui, le pourquoi d'ailleurs dans les deux sens, hein. C'est-à-dire pourquoi en un seul mot et pourquoi en deux. Le pourquoi, c'est le rapport au passé, c'est-à-dire que si je veux changer de vie, ça signifie donc que à l'instant T, j'ai un niveau d'insatisfaction par rapport à quelque chose. Et c'est quoi le quelque chose? Est-ce que le quelque chose est presque toujours à caractère relationnel, au sens c'est une relation avec quelque chose. Est-ce que c'est la relation avec mon travail? Est-ce que c'est la relation avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est la relation, parfois pourquoi pas, avec moi-même, l'homme ou la femme que je vois dans la glace le matin? Souvent, il y a une question qui me semble, souvent des gens me disent, mais j'ai du mal à répondre à ça, c'est quand je dis à des gens, mais qu'est-ce que vous pensez du type ou de la fille que vous êtes en train de devenir? Elle me dit, mais attendez, me dites pas ça, parce que ça me fait flipper complètement. Comme... Et oui, pourtant, la question est là, qu'est-ce qu'on est en train de devenir? Donc, il y a ça. Et bien, le pourquoi, c'est-à-dire, je veux changer de vie, mais le rêve alternatif, c'est quoi? L'illusion motrice. Moi, je crois beaucoup à la puissance positive de l'illusion motrice. Heureusement qu'on a parfois des rêves déraisonnables, mais le rêve déraisonnable, tant qu'il n'est pas incarné dans un projet, on va avoir du mal soi-même à sauter le pas.
Et vouloir changer de vie, c'est le fameux maintenant ou jamais qui se joue généralement entre 30 et 60 ans, avec cette idée de s'épanouir, de devenir soi-même.
Oui, entre 30 et 60, et puis parfois avant, parfois après. Mmh. Nous, on a un cas, par exemple, dans les grandes écoles qu'on connaît bien maintenant, ce qu'on appelle les bifurcations professionnelles précoces. Des jeunes qui sont bac plus 5 ou 6, ils travaillent 2 ans mais au top niveau dans des grosses boîtes et tout d'un coup ils disent ça y est, bon maintenant ça suffit, on arrête et direction qui l'Ardèche, qui le CAP de pâtisserie ou autre. Et vous avez les sexagénaires hors taxes, hein, c'est-à-dire comme moi, d'ailleurs qui eux en fait à partir de 60, tout d'un coup, j'en vois beaucoup, disent je vais véritablement rebattre totalement un certain nombre de cartes et il y a des ruptures aujourd'hui à la fois tardives et précoces.
Lomique Guillot.
Oui, c'est vrai qu'on voit peut-être chez les plus jeunes, le changement de vie est plus choisi que subi. Avant, c'était quand on se changeait de voie ou quand on entamait une reconversion professionnelle, c'était souvent après une période de chômage ou un licenciement. Alors qu'on voit de plus en plus, et ça c'est vraiment nouveau, on a d'ailleurs des témoignages en ce sens dans le magazine, des gens qui après, ce que vous disiez, 2-3 ans vont ouvrir une boulangerie, où on a notamment quelqu'un qui a monté une entreprise de ramonage qui intervient notamment à l'Élysée après avoir été un financier de haut vol. Donc ça, c'est assez nouveau. Et sur les raisons, pour compléter ce que vous disiez sur le pourquoi, c'est aussi se poser la question contre quoi on veut changer. Et ne pas changer contre quelque chose ou pour laisser quelque chose derrière soi, mais vraiment avec une envie et une motivation d'entreprendre quelque chose de nouveau.
Philippe Gabillier, vous citez Bronnie Ware, une infirmière, dans votre ouvrage, une infirmière australienne en soins palliatifs qui a publié les 5 grands regrets des personnes en fin de vie. Parmi ces grands regrets, j'aurais souhaité avoir le courage de vivre la vie que je voulais et non pas celle que les autres attendaient de moi. Et ça, c'est une question importante à se poser quand on veut changer de vie.
Elle est centrale. Pour moi, elle est centrale puisque le premier frein, dans le fond, d'ailleurs au changement de vie, ou tout, parfois pour beaucoup de gens, l'accomplissement, c'est que nous tissons nos vies d'engagement vis-à-vis d'autrui et en plus de gens qu'on aime. On les aimerait pas, le problème serait facile à régler, mais on les aime, on tient à leur estime, on tient à l'image, et ce qu'on appelle les engagements concurrents cachés, c'est chez beaucoup de gens ce qui va en tout cas leur empêcher, en tout cas ralentir, faire comme on dit procrastiner, c'est-à-dire bon, je vais attendre que les enfants soient partis, je vais attendre d'être à la retraite, je vais attendre d'avoir vendu mon entreprise, je vais... Donc, ces espèces de freins intérieurs sont d'ailleurs la plupart du temps des freins, comment dire, oui, positifs. Ça part d'un bon sentiment. Mais la vraie question va être la question du, non pas du sacrifice, mais jusqu'où je suis prêt à abandonner quelque chose pour pouvoir mener la vie dont j'ai envie, ou bien est-ce que j'accepte, je n'aurai peut-être pas la vie que j'ai voulu, mais j'aurai fait mon devoir et je vais, puisque je ne peux pas avoir ce que j'aime, je vais apprendre à aimer ce que j'ai. Mais là, je dirais, c'est une philosophie stoïcienne qu'on peut ne pas vouloir partager.
Lomi Guillot, quels sont les signes qui doivent nous alerter que le temps d'un changement de vie est peut-être arrivé?
L'ennui, c'est vraiment le premier des signes. On parle d'ailleurs de plus en plus de bore-out, qui est l'autre B-O-R-E. Versant du burn-out. Oui, c'est ça, le bore-out, qui est l'épuisement par l'ennui. Donc ça, c'est vraiment le premier signe. C'est si on s'ennuie dans son travail, si on n'a plus goût à faire ce qu'on fait, c'est qu'il y a quelque chose sans doute à changer. Ça ne veut pas dire nécessairement changer de vie, ça peut déjà... La première question à se poser, c'est est-ce que si je change deux ou trois choses dans mon quotidien de travail, de façon très concrète, est-ce que ça peut changer mon rapport à ce travail et me redonner un peu d'envie? Donc ça, c'est le premier signe, je pense.
Oui, ben là, je suis totalement d'accord avec ça. Le point de départ de la réflexion sur un changement de vie doit toujours être écologique, au sens de mon écosystème. L'environnement dans lequel je suis, les personnes qu'il y a autour de moi, les rythmes qui sont les miens. Et on pourrait presque d'ailleurs, quand on fait la liste des changements de vie qui changent quelque chose, si vous arrivez à changer en même temps un lieu, un territoire, un type de relation avec quelqu'un et le rythme selon lequel vous vivez, on peut dire qu'on est parti sur la piste d'un changement de vie plutôt réussi, sans doute.
Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous appelez de Saint-Brieuc.
Oui, c'est ça, de Quessoy, à côté de Saint-Brieuc, oui.
Alors vous avez changé de vie il y a 5 ans.
Voilà.
Qu'est-ce que... Vous étiez aide-soignant, c'est ça?
C'est ça, tout
Et
à
vous
fait.
Êtes devenu...
Boulanger.
C'est mon rêve, vous savez.
C'est vrai.
C'est un de mes rêves, non mais c'est vrai. Si je devais changer de vie, je pense que la boulangerie... voilà. Mais je sais que c'est un métier très difficile, où il faut se lever notamment à minuit et demi, une heure.
Voilà.
Donc c'est un petit frein là pour le moment. Mais racontez-nous votre changement de vie, Philippe.
Oui, c'est vrai que j'écoute avec attention tous les intervenants et je partage entièrement les remarques sur ce qui pousse quelqu'un à changer de vie professionnelle, en l'occurrence pour moi. Alors c'est vrai que ce projet-là, il était dans ma tête depuis très longtemps. Et puis, je crois que c'est aussi la conjonction de plusieurs faits qui a fait que j'ai pu réaliser cette envie-là. Je parle pas de rêve parce que c'était pas un terme de rêve, mais en termes de véritable envie de vivre cette expérience-là, à la fois de créateur d'entreprise et aussi de le faire dans la boulangerie. Et du coup, il y a eu une conjonction de faits qui sont arrivés pour moi à 50 ans, à savoir, je pense que je m'ennuyais dans ce que je faisais, et puis je me suis dit, je vais pas rester comme ça, je vais me donner les moyens de penser à moi aussi, et j'ai donc vu comment, j'ai confronté mon idée à des gens qui pouvaient m'accompagner sur cette démarche-là, et parce que je crois que c'est très important aussi de se faire accompagner, de se faire conseiller. Et du coup, j'ai pu, grâce aussi à mon expérience professionnelle acquérir, grâce à mes droits en formation, acquérir cette compétence de boulanger que j'ai passée de manière assez accélérée, mais que j'ai passée quand même. Et puis, vu mon âge, je me voyais mal repartir en apprentissage. Donc, je suis passé directement du projet à la réalisation de cette boulangerie qui maintenant va avoir 5 ans au mois de novembre.
Et vous estimez que c'est un changement de vie plutôt réussi, Philippe ?
Oui. Oui, oui.
Ça a l'air, en tout cas.
C'est un changement de vie réussi qui ne se fait pas sans mal. Sans mal en termes d'investissement humain, puisque c'est, comme vous l'avez dit vous-même, c'est effectivement un métier qui est très, très accaparant en termes de temps. Et en plus, moi, j'ai choisi de faire une boulangerie avec avec des pains cuits au four à bois. Donc, c'est une autre technique qui nécessite plus de présence. On a construit un four à bois aussi, enfin bref. Je regrette rien. Je trouve effectivement que quand on peut, que les conjonctions sont présentes pour vivre ça, faut pas hésiter, quoi. Pas hésiter.
Philippe, je veux bien votre baguette tradition, vous me l'envoyez à la maison de la radio. Merci beaucoup. Restez avec nous, Philippe. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Est-ce que vous êtes là?
Bonjour.
Julie, bonjour,
oui,
bienvenue. Alors vous aussi, vous avez changé de vie. Vous avez quitté votre travail sur un coup de tête, c'est ça?
Oui, moi j'ai quitté mon travail sur un coup de tête. C'est pour ça que j'écoute très attentivement ce qui s'est dit ce matin, parce que moi c'est j'ai jamais aimé ce que je faisais. Moi j'étais avocat et après j'étais juriste en entreprise, donc j'ai jamais aimé. Mais moi je suis vraiment partie sur un coup de tête sans savoir ce que j'allais faire du jour au lendemain.
Et vous êtes devenu? Qu'est-ce que vous êtes devenu?
Et je suis devenue humoriste.
D'accord. Vous faites du stand-up?
Je fais du stand-up depuis le mois de septembre à Paris et c'était pas du tout dans mes plans. J'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais voulu être comédienne. C'était vraiment, c'était un concours de circonstances.
Bon, et alors comment ça se passe là depuis quelques mois, depuis 6 mois?
Eh bien écoutez, en fait moi j'ai un mari qui soutient à fond le projet mais qui travaille quasiment autant que moi dessus. On a monté une société de production. Mm-hmm. Et puis on a un tiers de chance que ça floppe, que ce soit un flop, mm-hmm. un tiers de chance que ça marche moyen et un tiers de chance que ça marche, et on est tombé dans le tiers qui marche. Et ça se passe très bien et toute la famille est recomposée autour de ça quelque part. Et je dis pas que c'est facile tout le temps, c'est pas ça, mais c'est vraiment incroyable de vivre cette expérience qui est vraiment pour le coup unique. Enfin, je trouve. Hein,
et Julie, où est-ce qu'on peut venir vous applaudir?
Moi, je joue au Beau Saint-Martin, un stand-up entièrement en anglais sur les Parisiens.
D'accord.
Qui avec un accent très français, qui s'appelle Oh My God, She's Parisienne, depuis donc le mois de septembre, et c'est unique, si vous voulez, de décider de changer de vie sur un coup de tête, et ça inspire. En fait, les gens me disent ça, vous êtes inspirante, alors que en fait c'est juste une question de.
J'ai envie d'entendre nos deux invités, Lomi Guillot et Philippe Gabillier, sur ces deux changements de vie, celui de Philippe et celui de Julie. Philippe Gabillier.
Alors, en ce qui concerne celui de Julie, je trouve que l'idée clé qu'il y a là derrière, c'est le changement de vie. On n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais c'est quand même mieux à plusieurs, quoi. C'est-à-dire quand on en fait une affaire où on est plusieurs dans le coup. Parfois, avant de changer de vie, il va falloir négocier avec l'entourage. Parfois, il n'y a pas à négocier. Il va y avoir un partage autour d'un nouveau projet. Il est sûr que les changements de vie vraiment réussis sont rarement des changements de vie solitaires. Parce que fondamentalement, on est fait pour vivre en interaction avec autrui, quoi.
Lomi Guillot.
Oui, c'est vrai que je rejoins totalement ce que vous venez de dire. D'ailleurs, le précédent intervenant également avec ses oliviers était parti avec son épouse pour le faire. Donc, on a plus de chance à plusieurs. Et sur le témoignage de Philippe, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup dit qu'on changeait de vie pour retrouver du sens. Or, si j'ai bien noté, il était auparavant aide-soignant. On a généralement l'idée que c'est un métier où justement il y a du sens puisqu'on travaille pour les autres et avec les autres. Or, avoir du sens ou trouver du sens dans son métier, c'est pas nécessairement être un métier, être dans ce type de métier, mais c'est faire quelque chose qui est important pour soi. Voilà. Donc c'est peut-être que lui ne trouvait pas du sens dans ce métier, qu'en s'orientant vers la boulange, il alla trouver du plaisir et du sens à ce qu'il faisait.
Merci beaucoup Philippe et Julie de nous avoir appelés ce matin. Alors Lomi Guillot, avant de vouloir changer de vie, il est nécessaire de réduire l'écart entre le fantasme et la réalité. Cette réalité, ce réel cher au regretté philosophe Clément Rosset. Nous avons parfois tendance à idéaliser certains métiers au risque de la désillusion.
Oui, absolument. D'ailleurs, alors il y a des cas où c'est plus compliqué. C'est vrai que Julie, qui se lance dans le stand-up, c'est pas un métier qu'on peut aller observer ou qui a des, il y a pas de formation réellement. Mais en revanche, dans le cas de la boulangerie notamment et d'autres métiers de ce type, c'est vrai que c'est important quand on a un projet de changement d'aller un peu se confronter à la réalité du métier, d'aller partager une journée, 2 jours, une semaine avec quelqu'un qui fait ce métier pour voir ce qu'est la réalité du métier, pas seulement l'image fantasmée qu'on en a. On parle souvent du syndrome de la chambre d'hôte, des couples de Parisiens qui partent en vacances et puis qui veulent ouvrir une chambre d'hôte parce qu'ils ont passé un moment formidable, mais la réalité, c'est pas simplement être en vacances, c'est soit tenir la chambre d'hôte. Donc c'est vraiment important quand on a ce type de projet d'aller voir quelques temps comment ça se passe et de discuter avec des gens qui exercent cette profession.
Et moi je rajouterais que quand on fait ça, puisqu'on s'est donné à soi-même le devoir d'essayer quelque chose de nouveau, il faudrait mieux aussi qu'on ait le courage de se donner le droit à l'erreur. Parce que tous nos ancêtres, hein, nous tous ici dans ce studio et ces gens qui nous écoutent, nos ancêtres, au niveau de nos arrière-grands-parents, c'est des gens qui ont fait leur vie dans un rayon de 30 km autour de là où ils étaient nés. C'était un monde où l'information était rare, la connaissance était chère, voyager c'était presque toujours dangereux. Aujourd'hui, on est effectivement rentré dans un monde de possibilités. Donc, on a le droit aussi de rater. D'abord, on a tous les droits. On a le droit de rater, on a le droit de revenir là où on était. On a le droit d'essayer autre chose. Après, le seul critère, c'est le respect des gens qui sont autour de soi. Tant qu'on ne fait pas de mal aux autres autour de soi, on a le droit de vivre 12 vies si on veut.
Allez, il est temps de retrouver notre psy préféré, Christophe André.
Chose vue.
Je suis votre thérapeute.
Christophe André.
Christophe André, que vous inspire notre thème du jour ce matin ?
Ah, des tas de choses. Moi, je suis passionné par tout ce qu'on raconte nos invités. C'est vrai que changer de vie, qui n'en a éprouvé un jour l'envie ? Les enfants qui veulent changer leurs parents ou leurs frères et sœurs, trop relous. Les ados qui veulent changer leur corps, trop chum. J'ai appris que chum en verlan, c'était le verlan de moche. J'ai demandé à mes filles. Les adultes qui veulent changer de tout un tas de choses. Les plus grands poètes aussi ont évoqué ces aspirations, comme Stéphane Mallarmé dans Brise marine. La chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Fuir, là-bas, fuir. Je sens que des oiseaux sont ivres d'être parmi l'écume inconnue et les cieux. Et puis, il y a eu un autre poète, un peu plus près de nous, François Valéry.
Changer de vie.
Aïe, aïe, aïe.
Changer d'amour, changer d'amour. Balayer tout, changer.
On arrête là ? Vous me le recopierez 100 fois celle-là.
Mais bon, on peut récupérer la chanson intégrale sur Internet. Alors chanter ainsi, ça fait envie, pas de doute. Mais avant de se lancer, il y a tout de même effectivement quelques questions à se poser. Par exemple, celle de nos motivations. Ce mouvement vers le changement est-il une fuite ou une quête ? Voulons-nous fuir un conjoint, un métier, un lieu de vie ? Ou voulons-nous courir après un rêve, aller vers plus de bonheur, de richesse, d'amour, d'air pur, de grands espaces ? Bien sûr, toute aspiration à un changement de vie mélange ces deux mouvements, la fuite et la quête. Mais dans quelle proportion ? Quelle est la part de la fuite et celle de la quête ? Est-ce que, pour qu'un changement de vie soit réussi, il vaut mieux partir pour quelque chose, vers quelque chose, ou bien fuir loin d'autre chose ? Et puis, il y a une autre question. Sommes-nous prêts à affronter l'habituation hédonique ? L'habituation hédonique, c'est la rouille du bonheur. C'est ce mécanisme psychologique qui fait que, lorsque nous nous sommes rapprochés de nos rêves, de nos projets, leur charme peut s'éteindre peu à peu et les faire redevenir des réalités ordinaires. Prenons des exemples. Vous avez décidé de changer de vie, vous avez échangé votre ancien travail contre un nouveau, mieux payé, vous avez changé votre ancien appartement trop petit contre un nouveau, plus grand, ou bien vous avez changé votre vieux conjoint, toujours de mauvaise humeur, et en survêtement le dimanche, contre un nouveau, souriant et élégant. Et vous espérez que ces changements vous apporteront un bonheur durable, sinon éternel. Mais après quelques mois, vous levez le matin pour vous rendre à votre nouveau travail, ne vous met plus en joie comme au début. Rentrez le soir dans votre nouvel appartement, non plus, vous demandez si ça aurait pas été mieux finalement une maison avec un petit jardin. Et votre nouveau conjoint se laisse un peu aller, il fait moins de sourires et il parle même de s'acheter un survêt pour traîner à la maison le dimanche. Bref, quels que soient les changements obtenus dans notre vie, même réussis, nous aurons à lutter contre l'habituation hédonique, ne pas nous contenter de changer nos circonstances extérieures de vie, mais conduire aussi un changement psychologique. Profiter de l'occasion pour réfléchir un peu, non pas sur ce qui pourrait nous rendre plus heureux ou plus libres ou plus autre chose, mais sur nos capacités à profiter des sources de bonheur, de bien-être qui sont déjà là dans nos vies d'aujourd'hui et qui seront là aussi dans celles de demain. Bon, je dis pas ça pour vous dissuader de changer, c'est parfois vital pour ne pas sous-vivre, pour ne pas passer complètement à côté. Mais je dis ça pour vous rappeler qu'un changement réussi, ça se passe aussi dans la tête. Vous, cher Ali, vous m'écoutez religieusement ce matin, je sens que le sujet vous interpelle. Vous n'auriez pas un petit projet de changement de vie en vue ?
Non, ben un jour, je vous ai dit, ouvrir une boulangerie, pâtissier, oui. J'aimerais bien un jour, pourquoi pas. Philippe Gabillier, rapidement, vous avez pris plein de notes là, pendant la chronique de Christophe André.
Oui, l'idée selon laquelle le romanesque du début fait place à l'ordinaire, hein, cette vie, la vie de beaucoup de gens qui est, comme on dit, fondamentalement coupable de n'être que quotidienne, fait effectivement partie du processus. Et c'est vrai que dans le fond, si on ressent ce que Christophe disait très bien, l'habituation hédonique, c'est peut-être qu'en fait, ça ne remet pas en question le désir de changer, mais est-ce qu'on s'est vraiment attaqué au bon changement ? Et quand on parle du sens, je voulais juste rajouter une chose. Le sens, c'est à la fois l'utilité, la raison d'être, etc. Mais on oublie souvent que le sens, c'est aussi la sensation. Et par exemple, entre celui qui était avocat et qui est devenu oliveron ou boulanger, ce qui change, ce qui caractérise sa nouvelle vie, c'est que ses sensations physiques, les odeurs qu'il sent, ce qu'il ressent au toucher, les musiques qu'il entend, les bruits qu'il entend ne sont pas les mêmes. Et nous sommes aussi des êtres de sensations et parfois on veut changer de vie pour rechercher d'autres sensations.
Et puis avec Christophe André, nous aimerions remercier les 18 000 spectateurs qui ont assisté à notre deuxième conférence conférence France Inter à la maison de la radio et diffusée dans les salles de cinéma. Sachez que la toute première conférence consacrée aux bienfaits de la bienveillance est disponible en podcast. À suivre d'autres conseils pour réussir son changement de vie.
Oh, comme ça cognait, Phébus à bloc, on s'abritait dans la forêt. Mille sentiers nous parcouraient, mille odyssées à notre porte, les cohortes d'ennui filaient, on le savait, elle reviendrait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Oh, ça nous voyait comme anguille, dans les ruisseaux qui serpentaient, mains des garçons, cheveux des filles. Et on se cherchait dans les bois. Certains se trouveraient, d'autres pas, mais sans moquer, qui oserait, même aujourd'hui, qui oserait. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis, mais depuis, oh, un jour plus rien ne meurt jamais, toute l'eau stagne dans le puits, on revient seul dans la forêt. Se mettre à l'abri, même si le soleil a pâli, voilé par tous les jours d'après, on revient seul dans la forêt. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie, aucun engagement d'aucune sorte. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis.
Qu'est-ce que c'est bon, Dominica, toute l'attitude.
Laissez-moi vous présenter votre capitaine, le commandant avant.
France Inter.
Messieurs, bienvenue à bord.
Grand bien vous fasse.
Arrière.
Avant.
Avant. Tout.
Ali Rebil.
11h moins le quart, comment réussir son changement de vie, c'est notre thème ce matin avec le professeur en psychologie Philippe Gabillier et avec Lomig Guillot du magazine Management. Alors Philippe Gabillier, dans votre ouvrage L'art de changer de vie en 5 leçons, vous énumérez 33 questions fondamentales pour passer à l'action, on ne va pas les énumérer, mais quelles sont pour vous les plus importantes ?
Je pense que là, je vais vous en choisir trois, quatre. La première, ça serait qu'est-ce que je veux pas changer. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui restera mon socle d'identité, même mon socle relationnel. Ça sera quoi? On peut pas non plus tout chambouler. On a tous un camp de base. Et qu'est-ce que je ne veux pas changer est déjà une question garde-fou. On peut rêver, mais parce que c'est la question qui m'empêchera aussi peut-être de faire du mal aux autres. Ensuite, la deuxième question, ça serait probablement qu'est-ce que je peux faire différemment déjà à partir de demain matin. Parce que il n'y a pas de, c'est pas quelque chose qui se pense, vous voyez, le changement de vie. On le fait ou on le fait pas. Et voilà, Shakespeare fait dire à Hamlet to be or not to be. Ben, il aurait écrit Hamlet aujourd'hui, ça aurait été to do or not to be. C'est-à-dire que ma seule façon de devenir quelqu'un de différent, c'est de faire quelque chose demain de radicalement différent de ce que je faisais aujourd'hui. Donc, quel va être mon déclic, mon instant zéro à partir duquel les choses vont bouger. Et surtout, la troisième question, ça serait peut-être. Avec qui j'ai envie de vivre ce changement de vie. Je peux d'ailleurs répondre avec des gens qui sont avec moi aujourd'hui ou avec d'autres que je ne connais pas encore. Ça, c'est un autre problème. Mais vraiment se poser cette question du avec qui je vais pouvoir changer de vie. Ça peut d'ailleurs vouloir dire avec qui vais-je devoir négocier pour l'emporter dans mon rêve. Pourquoi pas? Et puis ça peut aussi poser le problème parfois de la séparation d'avec certaines choses. Je prends cet exemple-là. J'ai une amie qui a vécu dans la rue pendant très 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 longtemps, pendant 25 ans. Et elle en est sortie, puis elle est retombée, puis elle en est ressortie. Et un jour, elle en est ressortie définitivement. Elle m'avait dit cette chose qui m'avait beaucoup frappé. Elle m'a dit, tu sais, je n'ai pu changer de vie véritablement que le jour où j'ai accepté, à mon fort intérieur, de ne plus jamais revoir certaines des personnes qui étaient avec moi dans la rue pendant très très longtemps, parce que moi, je n'avais pas la force pour pouvoir affronter ça. Donc, le jour où j'ai accepté de ne plus les voir, ça y est, ça voulait dire pour moi que j'étais enfin passé et je ne reviendrai plus jamais sur les quais de métro.
Lomique Guillot, quand on souhaite changer de vie pour un autre métier, il faut se méfier de quelques illusions qui peuvent nous perdre. Première illusion, voilà, j'ai trouvé le boulot idéal et ça ne peut que marcher.
Oui, c'est vrai, parce que d'abord, il n'y a pas de boulot idéal, c'est trouver le boulot qui me correspond, et ça ne peut que marcher. Non, c'est pas parce qu'un secteur est porteur qu'on va forcément s'y épanouir, et c'est pas parce qu'une partie du boulot nous plaît que l'ensemble va nous apporter satisfaction. Je ne sais pas, c'est pas parce que vous aimez les fleurs que vous ferez un bon fleuriste, parce qu'il y a des tas d'aspects du travail de fleuriste qui fait que vous ne serez pas toute la journée à composer des bouquets comme vous les aimez. Donc c'est vrai que c'est important, on le disait tout à l'heure, de passer du temps avant avec des personnes qui exercent la profession qu'on rêve d'exercer pour voir quels sont tous les aspects d'une profession.
Autre illusion, une passion débouche forcément sur un job.
Non, pas forcément, effectivement. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, c'est bien d'être motivé par une passion, mais toutes les passions ne peuvent pas nourrir son homme.
Philippe Gabillier.
Je voudrais juste rajouter que un des éléments du changement de vie réussi, c'est l'amour du réel. C'est-à-dire, les choses vont se passer. Et face à un changement de vie, moi j'ai l'habitude de dire, vous avez dans le fond deux solutions. Hein. Ça peut bien se passer, ou ça peut mal se passer. Et dans les deux cas de figure, il va se passer quelque chose. Et c'est avec ça que vous passerez à l'étape d'après.
Bonjour Corinne.
Oui, bonjour Annie.
Bienvenue dans l'émission.
Merci.
Alors vous êtes accompagnatrice en changement et en réorientation professionnelle, c'est ça?
Oui, tout à fait, depuis 25 ans. Mm-hmm. Et évidemment, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été changé ce matin. Et je voulais juste apporter une petite précision, surtout pour rebondir sur Julie qui évoquait la rapidité de son changement en disant que pour elle, ben, tout avait été OK et parfaitement accompli. C'est vrai que dans les différentes et la multiplicité de personnes qui m'a été donnée de recevoir dans mon métier, je m'aperçois que ça n'est pas forcément la rapidité du changement qu'il faut craindre, mais peut-être davantage se méfier de ce que la personne souhaite éviter. Mmh. C'est-à-dire, quand une personne exprime un souhait de changement, il y a souvent une grosse stratégie d'évitement qui se met en place. Et dans mon métier, je veille à faire attention à ce qu'il y ait suffisamment de moteurs aller vers dans la projection. C'est-à-dire que si le souhait de changement n'est motivé que par couper avec un quotidien qui embarrasse, qui ne convient plus, il n'y a pas suffisamment de moteur pour aller vers un nouvel avenir.
Lomique Guillot.
Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas changer contre quelque chose pour effacer le passé, pour laisser derrière soi des problèmes, mais avec une vraie motivation et l'envie d'aller vers quelque chose, vers un projet.
Corinne Olivier nous dit sur Facebook « Je voudrais souligner que nos institutions, type Pôle emploi et autres, sont une grande chance en France, car ça nous permet et ça nous aide dans nos changements de vie professionnelle. » Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, tout à fait. Je travaille moi-même hein, en complémentarité avec les institutions. J'ai travaillé pour des prestataires de ANPE puis Pôle emploi pendant plusieurs années. Toutes les institutions, effectivement, vont vers, on va dire, un geste aidant et facilitant. Maintenant, c'est vrai que après, il y a la compétence de terrain sur l'accompagnement au changement qui vient en appui supplémentaire.
Merci beaucoup, Corinne, de nous avoir appelé ce matin.
Mercurey, en Bourgogne. Il est 8h. Benoît a 37 ans. Il y a 4 ans, il a repris ce domaine viticole de 8 hectares.
Donc on va démarrer les bourgeonnages sur les blancs. Donc sur les blancs, on va laisser plus de bourgeons que sur les rouges parce que donc ça peut mûrir et donc il faut quand même qu'il y ait de la charge. Voilà, on attaque, on dégage bien le billon pour préparer la taille de l'année prochaine. Et puis voilà.
On y va.
Après 10 ans de carrière d'ingénieur, cet ancien Parisien a quitté une situation très confortable pour vivre de sa passion.
Travailler la terre et la nature, me casser le dos dans les vignes, parce que c'est un peu ce qui se passe quand même, ça a beaucoup de sens pour moi, effectivement. Donc c'est quelque chose d'assez authentique. Je sais pourquoi je travaille. Je produis du vin qui sort des raisins, des vignes, effectivement, que j'exploite. Et ça, c'est authentique, ça a vraiment du sens. Donc je suis vraiment content de le faire.
Un extrait de l'émission Tout compte fait en 2016. Lomi Guillot, de plus en plus de cadres, d'employés, diplômés du tertiaire, changent de vie en se reconvertissant dans un travail manuel, boulanger, ébéniste, mécanicien, vigneron. Quel est le béaba de l'artisanat pour ne pas se rater? Il faut quand même faire attention à certaines choses.
Oui, bah d'abord, l'artisanat sont des métiers, des traditions, des gestes qu'il faut apprendre. Donc il y a quand même une période de formation qui est nécessaire. On peut difficilement se lancer comme plombier en étant juste un bricoleur du dimanche, comme boulanger encore moins. Donc la première étape, c'est évidemment de se former. Pour ça, il y a tout un tas de dispositifs qui existent, notamment dans l'artisanat. Les artisans et leurs organisations ont été très actifs parce que dans les 100 000 projets de création d'entreprises liées à l'artisanat, il y en a à peu près un tiers par an qui sont portés par des gens en reconversion. Donc voilà, il y a tout un travail de formation à faire.
Pour terminer, Philippe Gabillier, comment faire pour que le rêve d'une nouvelle vie ne se transforme pas en cauchemar ?
Je pense que la première condition, si on peut dire, c'est pour le coup être, et je pense que Christophe André sera sur la même longueur d'onde que moi, il faut véritablement être dans le présent. C'est-à-dire que le meilleur moyen, c'est d'être attentif à ce qui se passe ici et maintenant, parce que le réel ment pas. Le réel peut m'envoyer des messages que je n'arrive pas à interpréter, mais le réel ne ment pas. Que me dit le réel aujourd'hui par rapport à ma relation aux autres, par rapport à mes sensations, par rapport à ce que je sens dans l'environnement autour de moi? C'est ça qui va en fait me servir de tableau de bord.
Et à propos de réel, lisez ou relisez Le réel et son double du philosophe Clément Rosset, disparu la semaine dernière. Merci beaucoup d'être venu. Alors on a eu beaucoup beaucoup de questions sur le changement de vie à l'étranger, mais nous consacrerons une autre émission à l'expatriation. Merci Philippe Gabillier, je recommande vraiment Merci. L'art de changer de vie en 5 leçons, c'est publié chez Saint-Simon. Lomi Guillot, je recommande le hors-série très pratique de management Changer de vie. Tout de suite, elle est là, Marie-Laure Zunshine de Femme Actuelle. Marie-Laure Zunshine, cette semaine, dans Femme Actuelle, vous vous intéressez au congé paternité.
Et oui, pouponner sans regarder la montre, passer du temps avec leur enfant, les pères sont nombreux à exprimer cette revendication bien légitime. Or aujourd'hui, les 11 jours de congé paternité, optionnels et remboursés sous conditions, sont largement insuffisants pour profiter à plein des premiers instants. Mais les choses bougent. Une pétition signée par près de 50 000 personnes, dont Vincent Delerme, David Fuenquinos, Julien Clerc ou un certain Christophe André, réclame un congé obligatoire indemnisé et allongé à 6 semaines. 6 semaines, tout comme la durée légale du congé maternité après l'accouchement. En janvier dernier, le gouvernement a commandé un rapport à l'IGAS sur le congé paternité, son éventuel allongement, sa prise en charge. Il devrait faire connaître sa position en juin prochain. Une chose est sûre, pas question de fusionner congé paternité et maternité. Le Premier ministre en a exclu l'éventualité. En attendant, plusieurs grandes entreprises ont pris les devants. Aviva offre ainsi 10 semaines rémunérées à ses salariés, Mastercard 8 semaines, Ikea 5 ou AXA 4 semaines. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'égalité, puisque ces papas frondeurs qui défendent leur cause plaident aussi pour celle des femmes. Cette revendication ouvre en effet la voie à un partage des tâches domestiques plus équitable, une meilleure conciliation entre vie professionnelle et personnelle. Bref, allonger le congé paternité, le rendre obligatoire, c'est rétablir un équilibre dans le couple, limiter l'impact de la maternité sur l'embauche et la carrière des femmes. Les hommes y sont prêts, les pouvoirs publics n'ont plus qu'à suivre le mouvement. En attendant, Ali, on compte sur vous pour signer la pétition.
Je vais la signer dès demain. Tiens, Marie-Laure, je ne vous ai pas posé la question si vous deviez changer de vie.
Oh, l'artisanat, certainement.
Mais
aussi,
quel artisanat?
Ah, à voir, je vais réfléchir. Je vous dirai ça la semaine prochaine.
Je veux tout savoir, Marie-Laure.
Vous savez quoi? Non, scénariste. C'est pas de l'artisanat, mais scénariste, ça me dirait bien. Ouais.
De séries télé ou de films?
Ah, séries télé, ouais.
Ah ouais, très bien. Bon, la semaine prochaine, c'est pas vous la semaine prochaine. Dans 15 jours, Marie-Laure Zunshine. Demain, nous recevons une auteure américaine, Sharon Salzberg, qui nous délivre quelques secrets pour apprendre à aimer, pour mieux aimer. À la technique ce matin, Tristan Gratalon et Maxime Ingrand. À suivre, Nagui et sa bande originale.